cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe, le 15 novembre l'an 2000 à Saint-Jeudard.
Petite question, j'ai du mal à comprendre ce qu'est l'être en puissance. Il faut le comprendre avec l'être en acte. Ne cherchez pas à le comprendre pour lui-même. Et c'est inintelligible. L'intelligibilité de l'être en puissance vient de l'être en acte. À travers un contact sensible avec les autres réalités, je peux affirmer qu'elle est, qu'elle existe du point de vue de son être. Elle est en acte. Elle existe actuellement. Or, elle peut exister, puisqu'elle n'est pas éternelle. Alors, elle a pu exister. Comment donc puis-je parler d'une puissance au niveau de son être? Justement, elle peut exister. C'est tout simplement. Le verbe « pouvoir » indique la puissance, la possibilité. Elle est, et je ne l'expérimente pas autrement. Tout à fait d'accord. Mais il y a l'intelligence. Il n'y a pas que l'expérience. L'expérience permet à l'intelligence de dépasser l'expérience. Vous voyez ? C'est pour ça que si je commence par la possibilité, je n'en sors pas, je ne rejoins pas le réel. Je pars du réel, de ce qui est, et je vois que ce qui est, cette chose, cette affirmation d'Aristote est très, très nette, avec le verbe dans la proposition, le verbe est toujours dans le temps. Ce qui est, c'est ce qui est maintenant. Actuellement, ce qui était, ce qui est peut très bien avant n'être pas. Et ce qui est peut très bien ne plus être demain. Je vois une petite fleur, elle existe. Demain, un petit moustique, il est, ce qui me pique, non, il est. Il me fait bien comprendre son existence en me piquant. Oui, et la nuit, spécialement, quand je suis réveillé par le bon... Il arrive, il est. Et puis, demain, j'espère qu'il ne sera plus là. Vous voyez, vous jouez avec le temps. Passé, présent. Là, l'intelligence se joue. C'est-à-dire qu'on dépasse l'expérience. On dépasse l'expérience par l'intelligence, pas uniquement l'imagination. C'est pas l'imagination de dire « il peut être avant ». Donc, comment donc puis-je parler d'une puissance au niveau de son être ? Elle est et je n'expérimente pas autrement. C'est sûr. J'expérimente en tant qu'elle est. Certes, elle peut être abîmée, détruite ou assimilée par une autre réalité. Elle peut donc ne plus exister. Donc, si elle peut, vous dites vous-même, elle peut donc. Comment pouvez-vous dire elle peut donc ? Réfléchissez sur la manière dont vous dites « elle peut donc exister ». Mais ça, ce serait non-être, non ? Le non-être, dans le non-être, il faut distinguer le non-être absolu et le non-être. Ça, vous ne l'expérimentez pas, vous n'avez jamais expérimenté le non-être. C'est trop dangereux. Vous n'avez jamais expérimenté le néant. Mais vous avez expérimenté la décadence. Il se corrompt. Il n'existe plus. Ça serait non-être et non pas être en puissance. Pouvez-vous m'éclairer là-dessus ? Vous voyez la différence entre le non-être absolu et le non-être en puissance. Le non-être en puissance existe en puissance, pas parfaitement. Vous avez une expérience du non-être en puissance, dans le non-être en devenir. Tout devenir a une puissance. Il peut être plus. Il peut être plus. Donc. Et vous l'exprimez bien par le langage. Il peut exister. Tandis que le non-être, vous ne dites pas que le non-être peut exister. Non, vous ne dites pas. Dès que vous dites que quelque chose peut exister, il y a la puissance. Tandis que le non-être, c'est la constatation, il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Et dans le langage même, il y a le point de vue du possible. Alors ça, c'est très important de comprendre que c'est à partir de l'être en acte que vous saisissez l'être possible. Et l'être possible, vous dites l'essence, à la différence de l'existence, c'est l'être possible. Il peut être. Et c'est Saint Albert aujourd'hui. Et Saint Albert est celui qui a été très fidèle à Avicenne. Son maître, c'était Avicenne. Comme tous à ce moment-là, Saint Albert le Grand était un savant remarquable. De son temps, il était considéré comme celui qui connaissait le mieux les réalités, la science de ce temps, hein, qui était beaucoup plus proche de la philosophie que de notre temps. Les mathématiques ont rongé ça. Tandis que la science de ce temps était très expérimentale. Et Saint-Albert le Grand est un homme d'expérience. Il y a des remarques de Saint-Albert le Grand qui sont merveilleuses. Quand il parle du bec des corbeaux, on voit Albert le Grand se penchant sur un nid de corbeau et voyant qu'à ce moment-là, on ne voit que des becs. Et c'est vrai, si vous avez vu déjà un tout petit corbeau, tout petit. Il a un bec démesuré, comparativement à ce qu'il est. Alors Saint-Albert le Grand regarde un nid, un petit nid de corbeau, en voyant des becs ouverts. On voit que tous les becs ouverts représentent l'avidité, le désir de recevoir de la mère corbeau, la nourriture. Il dit qu'on doit toujours avoir le bec ouvert. Ça, c'est Albert le Grand, oui. Une similitude, l'avidité. Il lit dans la nature, dans la réalité, des animaux, des plantes. Il lit toute sa philosophie. Et il la voit. Concrètement, c'est la grandeur d'Albert le Grand, et c'est la beauté d'Albert le Grand. Quand vous voulez vous reposer un peu, lisez Albert le Grand, c'est très reposant. Il y a Albert le Grand et Augustin, c'est pas la même chose du tout. Parce que Albert le Grand est très réaliste dans son expérience. La substance et l'acte sont deux principes au-delà desquels on ne peut remonter. Vous avez dit que le principe ne peut pas être relatif à autre principe. Tout à fait d'accord. La substance et l'acte ne sont-ils pas relatifs à l'être ? Relatif, c'est pas tout à fait le mot relatif. Ils sont l'être en premier lieu. Donc ils ne sont pas relatifs à l'être, ils sont être. La substance, c'est l'être, c'est ce qu'il y a de premier dans l'être au niveau de la cause, au niveau de la cause formelle. L'acte, c'est ce qu'il y a, c'est l'être vu du côté de la cause finale. Donc il n'est pas relatif à l'être, c'est l'être. Vous saisissez, c'est une lecture en profondeur de l'être. Vous voyez, il y a une lecture de l'être au point de vue purement descriptif. Vous décrivez la réalité. Et cette réalité est complexe. Et il y a le nez, il y a les yeux, qu'est-ce qui est premier en vous, au point de vue de votre être? C'est votre âme. Ah, ça, vous ne la touchez pas. Vous ne la touchez qu'à travers votre nez. C'est curieux, de la lecture de l'âme à travers le nez. Et c'est vrai, il y a une lecture de l'âme à travers le nez, à travers les yeux, à travers le toucher. Il y a une lecture de l'âme, mais sensible, avec le mode sensible. Donc, la manifestation. Mon âme se manifeste à travers les 10 prédicaments. Et les 10 prédicaments sont les manifestations de l'âme. Quand vous donnez un coup de poing à votre voisin, ce qu'il ne faut pas faire, quand vous donnez un coup de poing, vous manifestez que votre âme n'est pas heureuse. Quand vous donnez une caresse, ah, mon âme est heureuse de te voir. On manifeste ce que profondément on ressent. Autrement, si vous donnez une caresse à quelqu'un, et que vous êtes en colère contre eux, votre caresse, qu'est-ce qu'elle signifie? Que votre âme aime, alors qu'en réalité, elle n'aime pas. Vous falsifiez le signe extérieur. Le signe extérieur trompe. Et vous êtes menteur par le signe extérieur. Sauf hein, lorsque vous êtes en face d'un malade, vous pouvez très bien être terriblement énervé, de mauvaise humeur à cause du malade précédent. Vous voyez un autre malade, vous n'êtes pas encore calmé, mais vous lui dites votre amour. C'est différent. Vous revenez à une attitude vraie. Donc, tout simplement, la substance est l'être dans ce qu'il a de premier, dans ce qu'il a de principe. Donc de premier, du point de vue de la cause formelle, de sa détermination. Alors c'est la substance. Et pour voir l'acte dans la substance, je reprends la substance qui existe. Et je reviens à l'expérience. Je suis parti de l'expérience pour poser la substance. Je reviens à l'expérience pour voir comment cette détermination existe. Elle est en acte. Et quand je dis qu'elle est, je dis autre chose que sa détermination. Je dis son acte, son autonomie. Enfin, substance, essence, équidité décrivent-elles la même réalité? Mais signifie, mettez tout simplement, signifient-elles la même réalité? Sont-elles connues dans l'intelligence par ce qu'on appelle l'appréhension? Très bonne question. Mêle un peu tout, mais c'est très bien. Saint Thomas fait ça dans le DNT Essentia. Le DNT Essentia est une œuvre de jeunesse. Saint Thomas avait sans doute 24 ans. DNT Essentia. Comme il est traduit et que vous avez le latin à côté, vous pouvez le prendre. Et Diente Ascensio, c'est une œuvre de Thomas d'Aquin dans la jeunesse. Diente Ascensio, oui, au sujet de l'être et de l'essence. C'est bien ça, hein. Alors, je vous renvoie au Diente Ascensio. Mais c'est une œuvre de jeunesse. Alors, c'est pas très précis. Saint Thomas dira la nature, la crudité, c'est la même chose. Si je regarde Aristote, comment, de fait, Aristote parle-t-il de la substance? L'essence, comment le traduire en grec? Cherchez. C'est à l'interrogation du ti esti. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? TGV. L'essence du TGV. Hein? Il a une crudité, le TGV. Il a son intelligibilité. C'est pas le vieux taco, mais c'est quelque chose de tout à fait neuf. Et qui va très vite. Donc ça va le TGV. Le temps a grande valeur. TGV. Et c'est le TGV qui traduit ça. Ça fait partie de la réclame du TGV. Le temps aura une valeur. C'est pour ça que le TGV va très rapidement pour vous faire gagner du temps. Et il vous fait des réductions pour voir que vous gagnez, tout en dépensant. C'est merveilleux. C'est la manière de faire des propagandes pour voyager. Le mot essence. En latin, pas en grec. En grec, c'est le tiesti, c'est l'interrogation. Qu'est-ce que c'est? Et je réponds différemment. Mais c'est très intéressant, parce que c'est toujours très intéressant de voir les sources grecques et les sources latines. Et la rencontre des deux dans la théologie chrétienne. La théologie chrétienne a puisé au grec et elle s'est faite théologie latine. Église. Hein? Fameuse rencontre d'Athènes et de Rome. C'est quand même un phénomène très extraordinaire. Et c'est notre petite Europe qui a porté Athènes et Rome. Essence en grec. Si vous cherchez, tiesti, qu'est-ce que c'est? Donc, ça s'exprime par l'interrogation. Vous cherchez, vous dites ceci. Alors, ceci exprime la crudité de la chose, l'intelligibilité de la chose, qui correspond au tiesti. Intelligibilité de la chose. Cette intelligibilité peut être très varié. Ça peut être la substance. Ça peut être une qualité. Une qualité a une essence. La relation a une essence parce qu'elle a son intelligibilité. L'essence, c'est la réalité, le fondement réel possible d'être de l'acuité. Tout être est intelligible. Tout être déterminé est une essence qui peut être et qui peut ne pas être. Puisque l'être peut être et pas être. Donc l'essence exprime la réalité qui peut exister et qui peut-être n'existe pas. Alors, quand vous dites « ceci peut exister », ça a son essence. Et cette essence, son intelligibilité, vous l'exprimez en disant sa crudité. Vous voyez, l'essence, en tant qu'elle est porteuse d'intelligibilité en tant que s'exprime par qu'unité. Le mot qu'Aristote a inventé. Le to, ti, en, enai. Le ti, en, dans ce fait d'exister. Prenez Pierre. Pierre est un homme. Bon. Pierre va changer. Il est Pierre dans le berceau. Il a été baptisé Pierre. On l'a appelé Pierre. Et quand il va mourir, c'est Pierre. Il y a quelque chose qui demeure. Le ti-en. En grec, en, la parfait, explique ce qui dure. Ce qui dure dans son être. Ce n'est pas ses cheveux, parce qu'ils sont tombés. Parce qu'ils ont poussé. Ce n'est pas ses cheveux. Ce n'est pas son corps, il a changé. Il est passé du berceau, tous les étapes. Qu'est-ce qui demeure? Qu'est-ce qui demeure en vous? Le tien. Le to, ti, en, enai. L'être dans le tien, dans l'être. Qu'est-ce qui demeure en vous? C'est votre essence. C'est ce que vous êtes. Votre tiesti, ce que vous êtes. Ce que vous êtes d'une manière permanente. Ce que vous êtes qui ne change pas, qui disparaîtra peut-être avec la mort, mais qui ne change pas tant que vous êtes là. C'est toujours moi. Depuis le berceau, vous m'avez vu dans mon berceau, et maintenant c'est moi. Et dans mon berceau, c'était moi aussi. Vous voyez, c'est très beau comme mot. Dans le fait d'être le tien, ce qui est, c'est pas le tiesti. Le tiesti exprime maintenant. Le tien exprime ce qui dure. Alors, vous voyez, à l'interrogation, qu'est-ce que c'est? Ben oui, vous exprimez ce qui dure. C'est cela qui est le plus intelligible. Qu'est-ce qu'il y a de plus intelligible en vous? Et qui fait que tout votre être est intelligible. Votre main a une intelligibilité propre. C'est la main d'un homme. C'est pas la patte d'un ours. Il y a une différence. Hein. Quand vous avez donné la main à un ours, un père, non, pouvait donner la main à un ours. Je ne veux pas dire que les Bernois sont des ours, non. Mais à côté de Berne, il y avait la fosse. Il y avait des ours qui attendaient qu'on leur donne des carottes. Tienne, ce qui demeure, c'est l'acuité, son essence. Alors, c'est tout l'atavisme d'Avicenne qui a mis dans la théologie le mot « essence ». Et saint Thomas parle tout le temps de l'essence de Dieu. Mais Aristote ne parlerait pas de l'essence de Dieu. Parce qu'il saurait très bien que je ne peux pas le comprendre. Mais la rigueur du philosophe. Donc, Dieu n'a pas d'essence pour moi. Dieu n'a pas de quidité pour moi. Je ne peux pas la savoir. Saint Thomas dit, du reste, le théologien... Et certains, surtout par la négation, Dieu n'a pas de corps. Ah oui, ça c'est absolument sûr. Tandis, quelle est l'essence de Dieu? La scolastique rend des pages et des pages pour traiter quelle est l'essence de Dieu. Est-ce que c'est son intelligence ou est-ce que c'est son être? Est-ce que c'est sa volonté ou est-ce que c'est son être? L'intelligibilité de Dieu. Vous voyez, ce que je connais d'un être, sa quidité, c'est son essence. Substance exprime ce qu'il y a de premier dans l'intelligibilité d'un être. Ce qui est premier dans son intelligibilité. Ce qui est premier dans son être. substance. Donc, vous voyez, ça ajoute une précision, essence est beaucoup plus générale. Substance est très précise. Nature exprime aussi la détermination d'un être, mais son principe dans l'ordre du devenir. C'est pour ça que tout être lié à quelque chose de physique a une nature, une détermination dans son devenir. Ce que n'exprime pas la substance, c'est la détermination dans son être. Alors vous voyez, la différence entre être et devenir, c'est la différence entre substance et nature, au sens précis. Mais il y a quelque chose de commun, c'est que substance, essence, quidité expriment la détermination d'un être. Substance exprime sa détermination fondamentale et première. Essence exprime sa détermination essentielle. Je ne définis pas un homme par sa capacité de sourire. C'est pourtant une détermination de l'homme, mais c'est une propriété, c'est pas son essence. Tandis que quand je dis que l'homme est animal raisonnable, j'exprime son essence. C'est cette essence que je définis. Quand je définis un être, j'essaie de préciser son essence. Et l'essence n'exprime pas, premièrement, le point de vue premier seront les accidents des essences. La substance a une essence. Qu'est-ce qui fait quelque chose de commun entre la substance et l'accident ? C'est que chacun exprime quelque chose de l'être. La substance exprime le caractère premier de l'être. Les accidents expriment des qualités secondes relativement à la substance. J'exprime des accidents, j'exprime des propriétés. Les propriétés, ce sont des accidents essentiel, qui demeure toujours capable de sourire. Tandis que quand je dis que l'homme a des cheveux de telle nature, j'exprime un accident. Mes cheveux ne sont pas ma propriété. Si c'est responsable, vous pouvez vous tondre. Si c'était votre propriété, ce serait désastreux de vous tondre. Hein. Il y en a des personnes qui tiennent leurs cheveux comme si c'était leur propriété. Surtout ne touchez pas mes cheveux. C'était le signe à un moment où tout le monde portait, tous les garçons voulaient porter leurs cheveux. On voyait s'il avait la vocation ou pas. Est-ce qu'on peut vous couper les cheveux? Alors, j'ai dit, ah non, non, non. Bon, très bien. La vie religieuse n'est pas faite pour vous. Il y avait quelque chose de sensible qui exprimait quelque chose de très profond. On tenait à que son corps se manifeste de telle manière. C'est vrai, on distingue deux espèces de lions, des lions à crinière et des lions qui n'ont pas de crinière. C'est tout à fait différent. Bien, il y a des hommes qui acceptent d'être tendus et des hommes qui n'acceptent pas d'être tendus. Une autre espèce, l'accident devient propriété. Et c'est très très important ces choses-là, parce que ça nous aide à comprendre ce qu'est, est-ce qu'un homme tient avant tout à son intelligence, à sa volonté, ou est-ce qu'il tient avant tout à sa beauté, à son originalité, à l'autorité qu'il représente pour sa fonction. On voit très bien ça. On voit très bien comment des gens mettent toute tout leur être dans la charge qu'ils ont, leur s'affolant. Mais la charge devient substantielle. Et quand vous enlevez la charge qu'ils ont, il n'y a plus rien. L'être disparaît. Parce que la charge, c'est une fonction, c'est quelque chose de secondaire. Mais s'il n'y a pas de personne, la personne est toujours substantielle. Il n'y a pas de personnalité immédiate, première, dans la charge qu'on a. Celui qui met toute sa personnalité dans la charge qu'il a, fait une erreur. Parce qu'il y a toujours une distinction entre la charge et la personne. Vous connaissez très bien. Ça va très loin, ça. On est curé. Vous savez, curé en Bretagne, ça représente quelque chose. Il est recteur. Hein. Le recteur. Et c'est toute sa personne. Alors que non, c'est une charge qu'il a. Alors, c'est intéressant donc de distinguer substance, essence, existence. Et l'essence, c'est la possibilité d'exister. L'essence est possible d'exister. Essendi. C'est le gérondif qui dit ça en latin. Essendi. Possibilité d'être. C'est bien de mettre ces questions pour que petit à petit, on arrive à préciser cela. Nous avions vu la dernière fois, et il ne faut jamais l'oublier, c'est très important, le jugement d'existence. Je me souviens, à un moment d'une thèse en Sorbonne, le jury représenté par un personnage particulier demandant « Qu'est-ce que vous voulez dire par le jugement d'existence ?» Je ne comprends pas. Alors que c'est premier. Vous ne pouvez faire de philosophie qu'à partir du jugement d'existence. Si vous faites une philosophie réaliste. Si vous faites une philosophie qui n'est pas réaliste, mais qui est spirituelle, vous faites la philosophie à partir de « je suis ». C'est très important de comprendre que la philosophie européenne a été quand même une grande philosophie. Qui était développé depuis Boès jusqu'aux philosophes d'aujourd'hui, par des phases très différentes. Mais il y a quelque chose de commun quand même. La première partie de la philosophie européenne respecte ce jugement d'existence. Mais pas toujours, hein. Très vite, puisque Occam, 14e siècle, théologien, franciscain, quand on lui demande ce qui est premier dans sa philosophie, intelligo, je pense, et j'aime Socrate. Dame les deux. Je crois que c'est très important de voir cette espèce de révolution. Et vous ne voulez pas le faire, quoi. Je ne sais pas, très difficile de savoir ce qu'il pensait profondément. C'était, je passe de ceci et Aristote n'aurait pas dit je pense. Non, il pensait. Il le dit que par rapport à Dieu, le premier objet, si on peut interroger Dieu en tant que philosophe, Dieu est le seul qui peut se définir par « je contemple ». Je pense. Ma contemplation, ma pensée est parfaite. Je contemple. Je contemple. C'est la première chose qui existe en Dieu. Dieu ne dit pas « je suis » en premier lieu. Il dit « je suis pour nous ». Et pour lui, je contemple. Je contemple et j'aime. Je contemple et j'aime. C'est ce qu'il y a de premier en Dieu. Sans le savoir, quand vous dites que le premier objet de votre pensée, c'est intellio, et amo Socratem, au fond, vous prenez la place de Dieu, sans le savoir. C'est un théologien qui a dit ça en premier lieu. Quand Descartes dit cogito, vous prenez bien que Descartes n'a rien inventé, il a repris l'affirmation de Occam, qui a été vraiment très importante. C'est une révolution au point de vue philosophique. Ben, le toupet de tout commencer par je pense. Avant que vous pensiez la réalité existait. Donc c'est pas premier. C'est premier pour vous, peut-être. C'est la première conscience que vous avez. La conscience d'être, d'exister. Mais non, mais l'affirmation absolue, je contemple. C'est très très important pour nous. Parce que nous faisons notre philosophie en face de la philosophie contemporaine. C'est sûr, je ne peux pas négliger cette philosophie contemporaine. Je suis de mon siècle. Et je fais la philosophie pour les hommes de mon siècle. La plupart des personnes, aujourd'hui, commencent la philosophie par cogito. Soit catholique ou pas catholique. Je me souviens, dans les salons de Lyon, une dispute véhémente en disant que quand Descartes dit cogito, comme la première affirmation de ce qu'il est, c'est très grave. Et ce brave Lyonnais me disant, pas du tout, quand même, n'allez pas dire que Descartes s'est trompé. Descartes, c'est vraiment ce qu'il y a de plus intelligent. Il n'avait pas compris du tout que quand Dieu dit « je suis », au fond, Dieu seul a le droit de dire « je suis » d'une façon absolue. Dire « intelligo » en premier, c'est considéré que mon intelligence est première dans l'être. Alors, cogito ergo sum, le ergo sum, c'est vraiment pas une déduction du cogito, mais c'est une affirmation. Quand je dis je pense, cela implique je suis. Alors que je suis est autre que le cogito. Si vous dites que le cogito est premier dans l'être, je suis, vous identifiez les deux, vous prenez que l'être en vous est avant tout l'intelligence. C'est vrai que l'être en moi est avant tout mon intelligence. C'est très vrai. Mais l'être, c'est pas moi. L'être, il existe avant moi. L'être, je suis, j'existe, mais les autres aussi existent. je ne m'enferme pas sur moi. Tandis dans mon cogito, je m'enferme sur moi. Comment connaître l'autre quand je dis que c'est premier, c'est mon cogito? Je connais l'autre alors par rapport à moi. On comprend très bien le très gros problème de Lévinas. Comment je connais l'autre? Comment puis-je connaître l'autre? Je le connais toujours en référence avec moi. Donc je le connais autrement que lui-même se connaît. Et autrement qu'un autre le connaît. Parce que l'autre le connaît aussi en référence avec lui. Donc je ne le connais pas. Je le connais en fonction de moi. Et je ne le connais pas réellement. Vous voyez, l'amitié peut-elle s'expliquer comme ça? L'ami. Vous prétendez quand même respecter l'ami et respecter son altérité. Il est autre. Si le cogito est premier pour vous, vous connaissez l'ami en fonction de vous. C'est vrai, psychologiquement, vous connaissez l'ami en fonction de vous. Mais en réalité, si vous êtes vraiment ami, au-delà de la psychologie, si vous êtes vraiment ami, vous respectez l'autre. Vous respectez l'ami et ce qu'il est et ce qu'il doit être. Et ce qu'il doit être pour vous, il est autre que vous. Il est vous et il est autre que vous. Vous corrigez tout de suite que le connaître en fonction de vous, c'est pas ça. Vous voyez l'importance qu'il y a de mettre en premier lieu dans l'ordre de l'acte, ceci est. Parce que j'atteins là, tout de suite, la transcendance de l'être. L'être est avant moi. Il est, ceci est. J'affirme. Il y a quelque chose que je connais pour lui-même et non pas uniquement pour moi. Et que cet autre m'apporte quelque chose de tout à fait original, qui est son être. Et moi, je ne suis pas son être. Et je sais que je ne suis pas son être. Et donc, je m'intéresse à l'autre dans son altérité. Et son altérité me manifeste quelque chose de l'être que je n'ai pas en moi. Alors que si je mets intelligo, cogito, en premier lieu, je le connais en fonction de moi. Et on pourra dire, pour simplifier, en affirmant ceci est, en premier lieu, j'affirme que l'être qui est avant moi et peut m'apporter quelque chose et qu'il m'apporte quelque chose. Je peux comprendre le fondement de la vérité. Je suis vrai si je respecte l'autre en parlant de lui comme ce qui mesure ma connaissance. C'est cet être qui mesure mon intelligence. Alors que si je m'enferme dans mon cogito, c'est moi-même qui la mesure de ma vérité. D'où la sincérité passe avant la vérité. Je ne peux plus atteindre la vérité. Donc, quand j'affirme que je cherche la vérité, je cherche donc en premier lieu ceci est. C'est impliqué dedans. Autrement, je ne cherche pas la vérité. C'est moi-même qui me cherche. Je cherche à me définir, à me connaître. voyez. Il y a donc pour nous une rectification dans la philosophie de l'acte qui est première, qui est essentielle. C'est de comprendre qu'est-ce qui est premier dans ma vie intellectuelle. La primauté de l'acte sur tout ce que je peux connaître. La primauté de ce qui est indépendamment de moi, au-delà de moi. Tout ce qui est indépendant de moi et qui existe indépendamment de moi, je dois le respecter. Il est. Et il m'apporte quelque chose d'unique. Quelque chose d'unique. Et parce qu'il m'apporte quelque chose d'unique, que je le sais, je suis respectueux de lui. Vous voyez, il y a dans cette affirmation, ceci est, en la comprenant dans toute sa force, il y a cette affirmation que l'être est ce qui détermine en premier lieu mon intelligence, l'actu. Et mon intelligence présuppose la détermination de ceci et du ceci. Mais cette détermination, pour moi, n'existe que parce qu'elle existe, que parce qu'elle est. Ce n'est pas moi qui lui donne l'existence. C'est lui qui porte en lui la possibilité d'être, d'exister. Ceci est. Et ce n'est pas grâce à moi que ceci existe. Il y a donc, dans cette affirmation du jugement d'existence, quelque chose d'extrêmement important. Vous voyez ? Le développement de la philosophie reviendra toujours à cette affirmation. Le jugement d'existence est coextensible à toute ma philosophie. Toute ma philosophie reviendra toujours au jugement d'existence, jusqu'au dernier moment de la découverte de l'être en acte. Et le dernier moment, ce qui est de plus élevé dans ma connaissance, dans l'intelligibilité que je saisis, c'est l'être en acte. Et l'être en acte est présent dans mon premier jugement, ceci est. Et il est présent dans toute ma philosophie. Mais il est parfaitement explicité qu'en métaphysique, lorsque je recherche comment l'être se finalise lui-même. Il est en acte. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu, c'est l'être. Dieu, c'est l'être premier existant, indépendamment de toute autre existence. Tandis que l'être, je le saisis comme ce qui détermine mon intelligence, ce qui est avant moi, mais qui existe, qui est, selon sa détermination d'être, et qui peut dépendre d'un autre, parce que il n'est pas source de tous les autres êtres, de tous les autres. Il n'en est pas la source, il n'en est pas la cause. Il coexiste avec les autres. C'est aussi très important de bien comprendre ce moment particulier où je comprends que l'être que je saisis, il a bien son caractère premier en lui, mais il n'est pas source des autres. pour être source des autres, il faudrait que lui contienne tous les autres et que tous les autres proviennent de lui, soient dépendants de lui. Donc il y a deux priorités. La priorité du principe est premier dans un ordre particulier. C'est une priorité d'intelligibilité et de réalité. Et puis une priorité qui est absolue. Il ne dépend d'aucun autre. Il a une autonomie absolue. Parce que certains ont confondu l'acte avec Dieu, l'être en acte avec Dieu. Toute une thèse d'un Canadien qui identifie et qui veut identifier, selon Aristote, l'être en acte avec Dieu. Non, l'être en acte est premier selon l'interrogation « qu'est-ce qui finalise l'être ?» Tandis que la saisie de Dieu, c'est la saisie d'une réalité et non pas d'un principe. La réalité existante en elle-même est première à l'égard de tout autre, ne dépendant d'aucun autre, étant même source de tous les autres. En commençant par ceci, et je peux préciser cela, et je peux aussi voir l'intérêt particulier qu'il y a dans le fait de dire « je pense, cogito ». Je saisis le mode spécial de mon être qui implique la pensée. Mais impliquer la pensée, participer à la pensée, ne veut pas dire exister par moi-même en pensant. La non-diversité entre ma pensée et mon être. Seul dans l'être premier, il y a cette identification. Dans toutes les autres réalités, il y a une distinction très importante à faire. C'est que leur connaissance est dans l'ordre intentionnel. Alors là, vous voyez, joue la critique. Il faut comprendre que je ne peux pas passer directement de ma connaissance à la réalité. Je ne peux pas dire immédiatement l'être en acte, c'est l'être premier, absolu, c'est Dieu. Parce que tout ce que je connais, je l'abstrais du réel, mais en le connaissant, je saisis son intelligibilité, son intentionnalité, mais sa réalité, elle est en dehors de moi. Son existence est en dehors de moi. Et son existence n'est pas la mienne. Donc, de ce fait même, affirmer que je pense, que je suis en acte de penser, ne veut pas dire que toutes les réalités que je pense, existe en moi et n'existe que par moi. Une différence entre l'intelligibilité et l'être. Cette différence, je la saisis dès le point de départ de ma philosophie, en saisissant justement la différence que dans la réalité, l'essence et l'acte d'être sont un. Dans ma connaissance, ils sont deux. Ma connaissance connaissance, pour saisir pleinement la réalité, distingue ce qu'elle est en elle-même et son intelligibilité, son essence, sa cuité, qui n'est pas la réalité, mais qui est la réalité en tant qu'elle porte une certaine intelligibilité.